Tout de suite, Local Actu. L'actualité locale.
Nous allons aujourd'hui parler musique actuelle, rime, smack, autant d'anagrammes et de lettres que nous allons expliquer. Alors je vais vous d'abord laisser mes invités se présenter à chacun leur tour. Bonjour.
Bonjour, moi je suis Rémi Chastenet du RIME, qui veut dire donc Réseau des indépendants de la musique.
Bonjour, Caroline Pioget, je suis chargée de communication et d'action culturelle au Sans Réserve.
Et bonjour, je suis Guy Garcia, le directeur et programmateur du Sans Réserve à Périgueux.
Alors, on va commencer avec le RIME, en expliquant un petit peu qu'est-ce que c'est.
Le RIME, mais on l'a déjà expliqué sur vos ondes, on va le redire. Du coup, c'est un réseau d'acteurs des musiques actuelles, qui est un réseau qui est né en 2017, en janvier 2017, et qui regroupe maintenant sur la nouvelle région, Nouvelle-Aquitaine, des anciens réseaux qui préexistaient sur les anciennes régions, et qui du coup se sont retrouvés dans un seul, donc le RIME au début d'année dernière, et qui regroupe du coup divers acteurs avec des typologies et des activités différentes des musiques actuelles. Ça va de la salle, du lieu de diffusion en fait, à des écoles de musique associative, à des labels, à des festivals. Voilà, c'est vraiment l'ensemble de la filière des musiques actuelles qui est représentée au sein du RIME. Il y a aussi des radios qui font partie du réseau.
Alors, on a aujourd'hui des représentants d'un de ces lieux, le Sans Réserve, et ils vont nous expliquer un petit peu pourquoi ils font partie du RIME, qu'est-ce que c'est de faire partie de tout ça. Alors, Caroline, Guy, je vous laisse nous dire déjà pourquoi est-ce que vous faites partie de ce réseau.
Parce qu'on l'aime bien. Non, c'est que ce réseau, on en est... adhérents, nous, depuis très longtemps, puisque, comme Rémi le précisait, en fait, ça a été un réseau de issus des différentes régions. Donc, pour notre part, on était adhérents depuis plus d'une dizaine d'années, donc au RAMA. Hein, et le RAMA, en fait, a conduit après à cette création, donc, du coup, du RIME. Quoi, voilà. Donc, pourquoi on y est, c'est qu'on croit l'action qui va aller faire en sorte que des acteurs sur tout un territoire en fait puissent aller travailler ensemble, puissent coopérer pourquoi pas ensemble, puissent porter des choses et des valeurs en fait ensemble, que ce soit des plus petits, des plus gros, que ce soit des labels, que ce soit des festivals, que ce soit des salles comme nous, que ce soit des écoles associatives ou des radios.
Radio Libre en Périgord participe aussi à ce réseau et c'est pour ça qu'on cherche à savoir un petit peu mieux de quoi il s'agit. Alors, parlez-nous un petit peu du Sans Réserve, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette salle de musique actuelle.
Alors, pour en parler, on est obligé de revenir un peu et de revenir sur l'histoire en fait, de la création de ce lieu. Donc, en fait, il faut se reporter dans les années 90, où beaucoup d'acteurs associatifs se sont regroupés au sein d'une asso qui s'appelait le Collectif 24, qui a vu jusqu'à une trentaine d'acteurs en fait ensemble, principalement des assos œuvrant dans la diffusion des musiques actuelles, mais pas que, puisqu'il y avait aussi une radio dedans, en l'occurrence, mais une troupe de théâtre aussi, enfin voilà. Et les objectifs très clairs en fait de ce collectif 24, c'était de pouvoir faire en sorte que dans les villes de Périgueux et de Bergerac, qu'il puisse avoir un lieu donc de diffusion pour les musiques, ce qu'on appelle vulgairement une salle de concert, quoi, mais également des lieux donc de travail, ce qu'on appelle des studios de répétition. Donc ils ont beaucoup œuvré, c'était pas spécialement dans les politiques culturelles des deux villes à l'époque d'aller sur ce type de politique publique. Alors, il faut dire aussi qu'en France, c'était tout nouveau, hein, puisqu'en fait, ce type de politique publique axée sur les musiques actuelles, la première salle en France date de 1993 et c'était au Florida d'Agen. Et donc, bon an, mal an, la ville de Périgueux est allée en fait sur la création donc, de ce lieu et le réservoir, donc à l'époque, est sorti de terre en 2000. Septembre 2000, c'est le collectif 24 qui devait gérer le lieu. Ça n'a pas pu fonctionner de cette manière-là, puisqu'il y a eu un clash en fait très clair entre le collectif 24 et la ville de Périgueux. Et du coup, la ville a repris ses billes et a souhaité donc gérer le lieu en direct avec un service culturel naissant qui arrivait avec l'Odyssée, donc la scène conventionnée que l'on connaît actuellement aujourd'hui. Et donc, ils ont souhaité, je simplifie un peu les étapes après parce que l'histoire est assez longue, mais si on a plus de temps un jour, on pourra en parler longuement de l'histoire.
Avec plaisir.
Et donc, ils ont souhaité faire un recrutement après d'une poste de direction qui n'aurait pas baigné dans le marasme ambiant qu'il y a pu avoir, quoi. Et je suis arrivé en janvier 2002. Avec pour mission donc de définir un projet artistique et culturel pour le lieu, de procéder donc à l'embauche des personnes nécessaires pour faire tourner la structure, mais surtout aussi de définir un mode de gestion nécessaire à ce type de structure.
Gros travail ?
Gros travail, oui, ça nous replonge quelques années en arrière quoi, déjà quand même. Quoi. La principale chose qui est à noter, peut-être avant de parler des SMAC, c'est que le projet en fait, que j'avais proposé il y a plus de 15 ans de ça maintenant, il est toujours d'actualité. C'est-à-dire que le projet il reposait en fait, sur les valeurs et toute la mise en œuvre en fait, qu'avaient commencé à mettre en place en fait, les associations locales. Et donc ça voulait dire que le projet que j'allais moi porter allait s'appuyer en grande part donc, sur les forces actives qui étaient les assos locales. Quoi. Ce qui explique, on en parlait encore tout à l'heure, que juste sur le trimestre-là, on bosse avec 17 assos, je crois, différentes, quoi, sur un seul trimestre. Quoi, puisque le principe de la co-organisation... qui est très fort en fait chez nous, il perdure depuis plus d'une quinzaine d'années.
C'est une des bases du sans réserve, c'est on fait pas ça tout seul dans son coin, on co-organise.
Ouais, c'est notre marque de fabrique vraiment, mais parce qu'il est lié à ce que les acteurs locaux ont su pouvoir faire avancer dans les années 90.
Alors Caroline, je me tourne vers vous. Vous êtes attachée de communication, attachée culturelle au sans réserve. En quoi ça consiste ?
Je suis chargée de communication et d'action culturelle, pour être exacte.
Pardon.
Chargée de communication, ça consiste en plein de choses. C'est à la fois le site internet, promouvoir les concerts. C'est également beaucoup de coordination avec les associations co-organisatrices. Notamment pour la communication, c'est les réseaux sociaux, c'est les relations presse. C'est tout ce qui fait que le public va être au courant des concerts qu'on organise. Et toute la partie action culturelle, c'est plus aller vers les publics qui ne sont pas forcément sensibilisés aux musiques actuelles. Donc c'est développer des projets avec des scolaires, avec des publics en milieu empêché. Donc, par exemple, les concerts en prison pour la fête de la musique. Et voilà, c'est plein de petites choses. C'est faire visiter le lieu, faire des sensibilisations au risque auditif. Donc, c'est un métier très diversifié et très, très intéressant.
Alors, on en parlait tout à l'heure avec vous, Guy Garcia. Les SMAC, qu'est-ce que c'est qu'une SMAC ? C'est rigolo comme mot, mais ça veut dire beaucoup de choses.
Love forever. Alors, SMAC, en fait, c'est un label donc d'État, comme Rémi le disait un peu tout à l'heure, alors qui remonte assez loin dans le temps, dans les genèses, même si ça a mis un peu du temps à évoluer, puisqu'en fait, ça remonte aux années 81, quand Jacques Lang, en fait, à l'époque ministre de la Culture, a souhaité développer le programme Café Musique, et ça vient en fait de là, où le programme en fait initial avait pour but d'essayer de faire en sorte que la culture ne se passe pas uniquement pour des nantis en centre-ville, mais puisse également partir de quartiers en fait défavorisés. Donc le programme Café Musique, à l'origine, était vraiment posé là-dessus. Ça a évolué après, puisqu'on a parlé beaucoup de différentes esthétiques en fait en musique, quoi, hein. Et pour arriver en fait à un programme donc, qui est défini maintenant depuis une dizaine d'années, qui s'appelle SMAC, donc Scène de Musique Actuelle, et qui est un programme... Alors j'ai repris un peu les textes du ministère, qui sont sortis au journal officiel, même si ces textes ont été un peu revus et corrigés. Mais pour être clair, en fait, les structures labellisées SMAC, donc elles organisent leurs projets artistiques autour des axes suivants. Le premier axe, donc, qui est la création, la production et la diffusion, alors qui est peut-être l'axe qu'on voit le plus dans ce type de lieu. Forcément, c'est ce qui est un peu plus médiatique, les concerts, voilà. La partie production et création, c'est pas spécialement celle qu'on voit toujours le plus et qu'on met le plus en avant, mais elle fait bien partie de cet axe-là aussi. Le deuxième, c'est l'accompagnement des pratiques musicales professionnelles et amateurs. Et là, la circulaire SMAC a bien évolué, puisqu'au démarrage, on parlait que des professionnels et le ministère ne voulait pas trop entendre parler des amateurs. C'est assez récent qu'il y a un bureau des pratiques en amateur au sein du ministère de la Culture. Il n'y en avait pas avant, quoi. Donc ça va remonter à 4-5 ans, quoi. Donc salle complètement des pratiques musicales, avec entre autres les studios de répétition et d'enregistrement qui sont afférents, quoi. Et puis le troisième volet, donc, c'est l'action culturelle dont nous parlait en fait Caroline tout à l'heure. Voilà. Donc c'est ces trois piliers, en fait, où souvent on parlait d'un triptyque, en fait, entre un projet, une équipe et un lieu, qui doit arriver effectivement à poser ces bases-là d'un projet. Et le ministère donc, de la Culture dit qu'il doit avoir minimum une SMAC par département maintenant. Donc voilà, dans des départements il y en a plusieurs, dans des départements il n'y en a pas encore. Je prends l'exemple encore de la Creuse par exemple ou de la Haute-Vienne, où il n'y a pas encore de SMAC hein, pour l'instant sur ces départements-là. Et l'autre chose aussi, c'est que ces lieux ne sont pas construits seuls avec un porteur associatif pour la plupart du temps, mais qui peut être aussi en régie, hein, ce qui peut être le cas pour quelques SMAC, mais également ça doit être porté avec des collectivités locales, donc des villes, des agglos, des départements, des régions, et souvent un mélange en fait de toutes ces collectivités-là.
C'est important pour le développement du territoire, que ce soit en ville ou en campagne ?
Alors oui, après tout dépend du projet que va porter en fait la SMAC. Hein. On va avoir des projets très, très différents suivant le lieu d'implantation déjà de l'association, en fait si c'est une association qui gère la SMAC, mais suivant aussi son projet. On a vu aussi des SMAC qui étaient très axés aussi sur un ensemble je prends l'exemple de l'Ardèche par exemple, où il y avait en fait trois points principaux sur lesquels se reposait en fait l'association, mais elle organisait la diffusion sur tout le département de l'Ardèche qui est un département très rural. Quoi.
Il y a une chose que dit Guy qui est hyper importante au travers du coup de l'exemple de l'Ardèche là, qui vient de donner, c'est vrai que sur certains départements, enfin certains territoires, en fait, les SMAC sont vus parfois comme des figures de proue un petit peu de la diffusion notamment, parce que c'est celles qui sont peut-être les plus visibles. Mais du coup, elles ont toute leur importance en fait dans vraiment l'écosystème des musiques actuelles sur un territoire, parce qu'elles sont aussi celles qui permettent la rencontre entre des plus petits acteurs associatifs, permettent à ces acteurs associatifs, pour certains, de programmer la première fois dans un lieu où il y a un équipement, des techniciens qui sont compétents, où l'équipe d'une SMAC se met aussi aux côtés de cette association pour monter une soirée, les accompagner. Voilà, donc c'est... La SMAC ne vit pas sur elle-même, elle est hyper importante aussi dans le maillage local. Sans dire que là où il n'y a pas SMAC, du coup, il y a aussi des choses qui fonctionnent. Hein. Mais en tout cas, c'est vrai que souvent, elle peut être un pilier qui permet aux acteurs associatifs de faire des choses sur leur territoire.
Et puis elle peut être très diverse aussi, hein, entre une SMAC qui peut être une salle de 80 places... avec une équipe réduite à 4 ou 5 personnes, jusqu'à une salle de 1600 places où on va retrouver une équipe de 25 personnes à temps plein dedans, quoi. Donc on disait tout à l'heure un peu les lieux d'implantation, mais le projet, et surtout bien sûr aussi les moyens qui y sont dévolus, les choses vont être complètement différentes. Quoi.
Alors les moyens, justement, d'où ils viennent ?
Alors, en ce qui concerne le sans réserve, on a 65% de fonds publics, et donc 35%, alors ce qu'on appelle d'autofinancement, c'est quoi l'autofinancement ? C'est la recette de billetterie, la recette du bar, les adhésions, on est une association, et les recettes donc des studios, que ce soit la répétition ou l'enregistrement. Après, sur les 65% donc de fonds publics, principalement pour nous, c'est la ville de Périgueux, en fait, hein, qui, outre sa subvention, nous fournit donc des locaux gratuitement, avec les fuites qui vont derrière, et c'est pas négligeable, quoi. Derrière, après, donc, c'est l'État, et après, donc, la région et le département, et également la ville de Chamier, donc, dans une moindre mesure. Et après, on a un peu de financement de ce qu'on appelle de société civile, le plus connu, effectivement, est la SACEM, hein, que l'on connaît, qui nous finance aussi également, mais également le CNV, le Centre National des Variétés, qui nous finance et sur le fonctionnement et sur l'investissement.
Alors pour revenir à ce que vous disiez juste avant, le but c'est aussi ça, c'est que les grands, les petits aient le même accès au développement, à se faire voir. Vous parliez des amateurs aussi tout à l'heure qui ont une place au ministère maintenant. Tout ça, ça se retrouve dans les SMAC.
Oui, alors je réponds pour les SMAC, mais oui, après si je faisais juste le parallèle pour le coup avec le RIM... l'idée du RIM, c'est justement de permettre l'interconnaissance entre si, je ne sais pas si les mots sont les bons, mais en tout cas entre les petites structures ou les plus grosses structures, entre des gens qui ont des compétences à partager, malgré leurs différences de structuration, et qui, au travers de l'interconnaissance, peuvent à un moment donné coopérer ensemble, réfléchir pour des projets communs qui vont être au service d'un territoire en question. Voilà, l'idée du RIM, c'est bien ça aussi, c'est surtout de permettre la rencontre.
Et avec un maître mot derrière, qui est l'intérêt général, quoi.
Et alors, si on est justement une petite asso ou un petit particulier et qu'on veut rejoindre ce réseau, comment est-ce qu'on fait ?
Alors, en particulier, c'est un peu plus compliqué, peut-être, quoi. Après, si on est une association, effectivement, enfin, il y a un règlement qui est assez clair et précis, hein. Il faut effectivement avoir son activité principale qui est située au cœur des musiques actuelles, puisque c'est bien de ça dont on parle, quoi. Et après, il faut faire une demande d'adhésion, tout comme on peut faire sur n'importe quelle association.
Alors, peut-être quelque chose qu'on aurait dû définir dès le début, les musiques actuelles. Qu'est-ce que c'est, les musiques actuelles ?
On me lance la perche pour que j'y réponde. Les musiques actuelles, en fait, c'est finalement toute esthétique musicale en dehors des musiques classiques. Et on va y retrouver autant, et souvent on entend aussi cette différenciation qui pose débat, hein, mais par exemple, les musiques traditionnelles, pour certains, ne sont pas des musiques actuelles. Nous, notre compréhension des choses, c'est plutôt l'inverse, c'est que les musiques traditionnelles en font partie. Preuve en est, on était là, je crois, la semaine dernière, avec le CRMTL, le Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin, qui œuvre au quotidien pour les musiques traditionnelles, qui vient de sortir un web documentaire sur le violon populaire en Corrèze. Et c'est vrai qu'on a difficilement, dans l'imaginaire collectif, on arrive difficilement en tout cas à tirer un parallèle entre le violon populaire et des amplis qui envoient de la guitare à fond. Pour autant, alors, au-delà de l'esthétique même, on retrouve les mêmes valeurs et on retrouve la même envie de défendre les pratiques en amateur, voilà, ou autre. Mais...
Alors moi, pour en parler, c'est pareil, vu mon grand âge, maintenant je fais un retour un peu dans le temps. Et avant qu'on parle de musique actuelle, en fait, il y a un chercheur du CNRS qui s'appelle Marc Touché, qui a travaillé, lui, sur le concept de musique amplifiée au démarrage, quoi. Et c'est un concept, moi, qui me plaisait bien à la base. Il définissait un peu de cette manière-là. En fait, c'est des gens qui ont besoin de l'amplification pour produire leur musique, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose effectivement de large, mais on est dans une culture effectivement de la production par l'amplification pour pouvoir faire de la production, quoi. Voilà, c'est pas le terme qui a été retenu par le ministère de la Culture, ils ont retenu ce terme musique actuelle, donc on est bien dans un cadre prédéfini, et eux, le ministère, ont défini effectivement des esthétiques qu'ils ont logées là-dedans, quoi, hein. Donc là-dedans, on va y retrouver les musiques amplifiées, ce dont on parlait un peu tout à l'heure, avec bien sûr le rap, le reggae, l'électro, le rock sous toutes ses formes, avec le métal, le dub, enfin voilà, toutes ces musiques-là, mais également la chanson, le jazz et les musiques improvisées, les musiques du monde et les musiques donc traditionnelles, quoi. Voilà un peu ce qu'on va retrouver sous ce couvert-là. Après, chacun y met un peu ce qu'il y veut, et puis le dosage en fait des esthétiques suivant les SMAC va être lié à son propre projet et ce qu'elle a envie de porter sur le territoire et ce qui fait sens par rapport à voilà. Ici, on a beaucoup d'acteurs qui étaient impliqués dans les musiques amplifiées avec une prédominance en fait de rock garage, de punk rock, puisqu'il y a eu beaucoup d'assauts en fait qui sont portés dans les années 90. Donc on a aussi beaucoup d'acteurs effectivement qui sont arrivés là et du coup ça a du sens, quoi.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous parler des SMAC. On vous retrouvera de toute façon sur notre antenne, à nos côtés, sur RLP. Merci beaucoup.
Merci.
Merci. Merci.
C'était Local Actu. Des informations d'actualité locale.